Un an de prison ferme pour Nicolas Sarkozy, condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Accusé d'avoir tenté d'influer sur une décision à venir de la Cour de cassation concernant la saisie de ses agendas dans le cadre de l'affaire Bettencourt. Voilà pour les faits. Dans un instant, votre analyse. Mais d'abord, sa réaction.
Il y a eu 7 ans d'enquête où tout a été fait. Et la seule chose qui reste, c'est des bribes de conversation téléphonique avec mon avocat, où on me prête l'intention de faire une démarche en échange de renseignements sur un poste. Je n'ai pas fait la démarche. Monsieur Elsebier n'a pas eu son poste. Et moi, je n'ai pas eu la décision que j'attendais. Et on me condamne pour cela ? Pour une intention ?
C'est bien le sujet, Gérard Carrérou. En droit, dans une affaire de corruption, l'intention suffit pour condamner ?
Écoutez, ça, ce n'est pas ma conception des choses, mais sur Sarkozy, beaucoup de choses ont été dites. Je me bornerai à juste une chose. Je reprendrai à son propos l'expression de François Mitterrand à propos de Pierre Bérégovoy. Je trouve honteux de jeter aux chiens l'honneur d'un ancien président de la République grâce en grande partie aux méthodes « barbouzardes », entre guillemets, l'expression est de Dupont-Moretti, du parquet national financier, parce que c'est le parquet national, donc je laisse de côté le jugement, chacun se fera son opinion, mais le parquet national financier qui était une institution après tout qui pouvait être justifiée pour des actes de grande criminalité, par exemple de détournement massif d'argent, etc. Ce tribunal, ce parquet financier est devenu un tribunal d'exception parce que sa mission a été dénaturée, défiguré, dévoyé et utilisé par certains juges qui ont évidemment des envies politiques de se payer un certain nombre d'hommes politiques. Voilà.
Vos mots sont durs ce matin, Gérard Carrérou. Catherine Ney, est-ce que vous trouvez vous aussi que 3 ans de prison, dont 2 avec sursis et 1 ferme, c'est une peine sévère, sachant que le parquet avait réclamé 2 ans ferme et qu'en droit, l'article 433.1 du Code pénal dit qu'il encourait jusqu'à 10 ans.
Oui. Donc, il devrait remercier Nicolas Sarkozy de n'avoir qu'un an de prison ferme. Non, écoutez, ce qui est extraordinaire, c'est que Nicolas Sarkozy a été écouté avec son avocat pendant presque une année, tous les jours. Et on ne retient de ce filet dérivant que des conversations où, soi-disant, il y aurait eu, un chantage, un pacte de corruption. On aiderait un magistrat à aller à Monaco pour, en revanche, des informations qu'il aurait pu recevoir. Or, le magistrat en question, qui est quelqu'un qui est reconnu, qui était jusque-là reconnu comme un juriste d'exception, à la probité exemplaire, et qui maintenant, vous voyez, finit dans l'infamie quand même, être condamné à 1 an de prison.
Vous parlez de Gilbert Azibert.
Oui, Gilbert Azibert. Mais il se trouve qu'il n'a pas fait une seule enquête. D'ailleurs, ce qu'on lui demandait, c'était incroyable, c'était d'obtenir un renseignement inutile, c'était savoir quand est-ce que la Chambre, c'était pas de peser sur le choix. La chambre criminelle de cour de la cassation, c'est de savoir quand est-ce qu'elle rendrait son jugement, vous pensez, alors que c'est déjà sur le site internet, on le sait d'avance. Donc, c'était un jugement inutile. Il ne demandait rien. Il était plus du tout. Il avait été candidat à Monaco 2 ans auparavant, mais comme il a eu un AVC entre-temps, il était fatigué, il ne demandait rien. Donc, et Nicolas Sarkozy n'est pas intervenu. Il y a une commission rogatoire à Monaco. Il n'est pas intervenu. Alors, comment, à partir de bribes de conversation, on arrive à faire un jugement où on dit que c'est un pacte de corruption. Alors, vous avez remarqué que pendant le procès, on devait diffuser, le tribunal avait dit, on va diffuser des extraits. Et puis, comme on a dit, tiens, eh bien, ça ne marche pas. Techniquement, ça ne marche pas. Mais c'était délibéré. Parce que si on avait mis mot à mot ce qui était enregistré, ça ne faisait pas de preuve. C'était quelque chose de décousu. Donc, c'est ça. Donc, c'est un jugement qui est hors norme et vraiment
on va pas refaire le procès ici pendant cette heure de débat, mais le jugement fait quand même 254 pages, vous l'avez lu, ou tout du moins parcouru longuement comme moi, et les attendus sont sans appel, je vais vous en citer quand même quelques-uns. Vous parlez de pacte de corruption, Catherine Ney. Charles Villeneuve, fait d'une particulière gravité, image présidentielle abîmée, effet dévastateur de cette affaire.
Non, mais la décision de culpabilité n'est pas surprenante, pour moi en tout cas. Dans la mesure où les conversations des écoutes téléphoniques que le tribunal s'est procurées montraient bien qu'à un moment donné, Nicolas Sarkozy a demandé un service à Gilbert Azibert qui, en échange, lui a demandé un service. Dans le cas de délit de corruption, je vous rappelle qu'une simple offre sollicitée est suffisante pour que le délit soit constitué. Donc, ça a été établi. On ne peut pas, si vous voulez, le contourner. C'est ce que je pense.
Mais...
Cependant, là où la condamnation est surprenante, c'est que je vous rappelle qu'il y a à peine un an, tout juste un an, le garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas a été condamné à un mois de prison avec sursis pour avoir transmis des renseignements à son ami le député de Boulogne, Thierry Soler, qui fait partie aujourd'hui de la cellule politique du président de la République, et il n'a eu que un mois de prison avec sursis.
Du sursis et pas de ferme.
C'est là où c'est, si vous voulez, disproportionné. D'autant plus que, in fine, finalement, l'affaire, les affaires d'arrangement, si vous voulez, les services n'ont pas été rendus. C'est là-dessus que, évidemment, Nicolas Sarkozy plaide une sévérité beaucoup trop grande, d'autant plus que le parquet national financier est accroché et même dénoncé à travers ses méthodes par le canard enchaîné, qui stigmatise justement, si vous voulez, le comportement d'un certain nombre de magistrats, puisqu'ils ont caché pendant 6 ans toutes les enquêtes qui ont été faites. Ils l'ont caché à la défense de Nicolas Sarkozy, de Thierry Herzog et de Gilbert Azibert.
Michel Cotard.
Je suis assez d'accord avec Charles Villeneuve. Quand même, je comprends qu'on puisse, quelles que soient les falsifications de la durée des écoutes ou de la façon dont ça s'est fait, je comprends qu'il y ait une sanction. Mais je dois dire qu'un, je trouve ça quand même complètement disproportionné aussi, et c'est ce qui a marqué tout le monde, et donc ça a donné l'impression d'un président qui, pour avoir de temps en temps pris des libertés avec les magistrats en disant qu'ils étaient tous pareils, qu'ils appartenaient tous à la même caste, que par conséquent, ils jugeaient tous de la même façon. Au fond, on a l'impression que c'est tellement disproportionné que c'est ça qu'il a payé. Et moi, ça, franchement, ça me gêne beaucoup. Et puis, je me dis aussi que c'est pas... Dans les procès qui sont tombés sur Nicolas Sarkozy, on ne peut pas dire que c'était le plus important, quand même. On ne peut pas dire que c'était le plus important. Bon, c'était effectivement son avocat a acheté un appareil téléphonique avec sa propre carte bancaire. Bon, mais on a le droit d'avoir deux lignes téléphoniques si on veut. Et d'ailleurs, il me semble que tous les ministres ont des téléphones privés, donc c'était pas ça.
Tous ne s'appellent pas Paul
Bismuth. C'est pas ça le problème. Je trouve que avoir enquêté 6 ans sur le fait de savoir si vraiment il y avait un traître qui avait dit à Sarkozy, fais attention, oui, tu écoutais.
À l'intérieur du PNF.
Alors, est-ce que vraiment ça vaut 6 ans d'enquête, 6 ans de bagarre à l'intérieur du parquet financier, puisque on sait que les uns et enfin des bagarres avec les juges. Voilà. Je trouve qu'il y a quelque chose de disproportionné qui donne du coup à ce jugement quelque chose d'extraordinaire. Alors, et qui peut-être peut aider d'ailleurs Nicolas Sarkozy vis-à-vis de l'opinion publique.
Alors on va en parler dans un instant. Est-ce qu'il y a un acharnement judiciaire contre Nicolas Sarkozy? Est-ce que la justice est politisée? On poursuit le débat tout de suite après cette courte pause. A tout de suite.
Europe 1, Sébastien Guyot.
Avec le débat des grandes voix jusqu'à 11h, en compagnie de Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou, on parle de Nicolas Sarkozy, condamné à 1 an de prison. Et cette question, est-ce que la justice est politisée? Il y a eu beaucoup de réactions politiques, hein, vous le disiez tout au long de la semaine, énormément de réactions. Il y en a une en particulier qui a marqué les esprits, c'est celle de Gérald Darmanin. Je voudrais vous la faire réécouter.
Chacun sait l'affection, le respect que j'ai pour Nicolas Sarkozy, qui a été un grand président de la République et qui, en ces moments difficiles, a évidemment mon soutien amical. Je n'oublie pas tout ce qu'il a apporté à notre pays. Je ne commande pas les décisions de justice et je peux vous redire tout le respect et toute l'affection que j'ai pour le président Sarkozy.
Est-ce qu'un ministre de l'Intérieur ne devrait pas dire ça, pour reprendre l'expression Charles Villeneuve? Est-ce que c'est un mélange des genres qui foule au pied l'indépendance de la justice?
Non, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à une obligation de réserve du ministre de l'Intérieur. Mais en même temps, il a pris la peine, Gérald Darmanin, de préciser qu'il ne remettait pas en cause la décision de la justice, mais qu'il voulait apporter son soutien, on vient de l'entendre, amical à Nicolas Sarkozy dans l'épreuve qu'il rencontre. Et c'est bien une épreuve, il faut l'avouer, que de subir une condamnation pour un ancien chef d'État, président de la République, je crois. Darmanin porte un jugement de valeur sur l'homme qu'il connaît, et qui, d'après lui, a été un grand président. Pas sur le jugement qui le condamne.
Gérard Carrérou.
Oui, moi, je voudrais qu'on dépasse le cas de Sarkozy, parce que moi, je veux dire, le cas de Sarkozy est très intéressant et il est intéressant qu'on en parle, mais ce qui est plus grave pour moi, c'est que je trouve qu'on est en train d'évoluer dans un pays où j'ai tendance à dire que personne ne peut plus vraiment dormir tranquille face au dévoiement de la justice. Je vais prendre des exemples qui ne sont au-delà de Sarkozy, pour le coup. Mais tout est bon au parquet national financier maintenant. Est-ce que les Français pensent, est-ce qu'ils ont voté pour que, dans leur pays, à 6h du matin, des brigades d'enquêteurs viennent chez l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, perquisitionner pour savoir quelles décisions il a prises pendant la crise sanitaire, le confinement, etc., à tel moment. Et la même chose, au même moment, pratiquement, chez le ministre en activité, là, il s'agissait d'un ancien Premier ministre, mais chez le ministre de la Santé en activité, M. Véran, ou chez l'ancien ministre, etc. Je trouve qu'il y a...
Chez Mme Buzyn.
Mme Buzyn. Ces juges-là, ce qui agissent évidemment sur instruction, se croient tout permis. Et ce n'est pas cela. Je rappellerai que le général de Gaulle ne mettait même pas la justice au niveau de l'exécutif et du législatif. Le général de Gaulle, dans la Constitution, parle de l'autorité judiciaire. Il ne dit pas « c'est le troisième pouvoir ». Il dit « c'est l'autorité judiciaire ». Aujourd'hui, l'autorité judiciaire se prend non seulement pour le troisième pouvoir, mais même pour le premier d'entre les pouvoirs. Et c'est ça qui m'inquiète. Je pense que tous les démocrates devraient s'en inquiéter.
Et cette perquisition dont tu parles, tu vois, les dates sont intéressantes. Dupond-Moretti est nommé ministre par Emmanuel Macron le 6 juillet. Eh bien, comme c'est un avocat qui attaquait les juges, le lendemain, le procureur Molins a ouvert une enquête auprès de la Cour de justice de la République qui a enquêté justement sur les plaintes qui avaient été posées contre le ministre de la Santé sur la gestion du Covid. Et c'est comme ça que 90 policiers et gendarmes, le même matin, sont allés chez 7 ministres, dont aussi M. Salomon, le directeur de la Santé. Ils sont restés 7 heures, ils ont regardé tout ce qu'il y avait dans leurs ordinateurs, leur portable privé. Et quand le ministre Véran leur a dit « Mais moi, il y a les conversations avec le président de la République », on dit « Mais tant pis, quoi ». On fait ça, mais alors, c'est une pression pour faire peur aux politiques.
Ce que vous dites en creux, Catherine Ney, Gérard Carrérou, Michel Cotta, je voudrais vous entendre là-dessus, c'est les moyens qui sont désormais déployés contre les politiques. C'est ce que disait d'ailleurs ce matin chez Frédéric Tatei, un spécialiste du droit constitutionnel, Bertrand Mathieu.
Justement, ce qui est quand même intéressant et inquiétant, au-delà de ça, c'est de voir que, oui, on sait, il y a un discrédit des hommes politiques. J'ajoute qu'il y a un discrédit aussi de la justice en France, puisque 45% seulement des Français ont confiance dans leur justice. Mais je trouve qu'il y a une guerre comme ça entre la politique et la justice qui est insupportable. C'est-à-dire parce que longtemps, évidemment, les hommes politiques ont un peu méprisé la justice, parce qu'ils sont maintenant en difficulté, on a une justice qui prend sa revanche avec le parquet national financier, mais qui a été accordé trop vite, sans doute, par François Hollande après l'affaire Cahuzac. Il prend sa revanche sur la haute autorité de la transparence de la vie publique. Et moi, on me racontait hier que, par exemple, on me donnait hier l'exemple de M. Villain, qui est maire de Cambrai, qui a été condamné par la haute autorité de la transparence, parce qu'il avait non déclaré à cette haute autorité un héritage. Mais il l'avait déclaré au fisc. Eh bien, malgré ça, on aurait pu au moins concevoir, lui donner un peu d'indulgence. Eh bien, la justice en a profité quand même pour lui donner plus d'un an d'inéligibilité, ce qui est beaucoup pour un...
Poser comme question dans la foulée, en quelque sorte, de ce que viennent de dire mes camarades. Prenons le secret de la défense. Bon, vous savez très bien que, évidemment, on s'en est finalement abstenu, puisque le parquet national financier a écouté pendant 6 ans, et notamment les fadettes des avocats, de plusieurs avocats. Or, vous savez que dans une profession d'avocat, c'est le fondement même de la profession d'avocat, le secret de la défense et la conversation avec l'un des clients. Et il se pose la question que dans un état de droit, par rapport à tout ce qui a été décrit, les perquisitions, etc., La fin ne justifie pas tous les moyens.
Sauf que ces écoutes ont été validées par la justice, Charles Villeneuve.
Non, par la Cour de cassation la plus haute. Mais justement, c'est ça qui est surprenant.
Oui. Oui, mais
c'est ça qui est surprenant. Et ça ne tiendra pas devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ça ne, puisque vous savez qu'elle a même effacé complètement de tout dossier, toute juridiction, l'écoute du maître d'hôtel de Mme Bettencourt, oui, qui avait planqué sous des dossiers des micros. Et il est vraisemblable que là aussi, de toute façon, ce qui a été fait par rapport aux avocats sera certainement effacé des dossiers.
Mais c'est quand même important qu'on soit obligé d'attendre éventuellement une décision probablement saisie par Nicolas Sarkozy à un certain moment, peut-être, de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'il faille attendre une décision qui interdisent au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme d'écouter les avocats, alors qu'en France, on continue à écouter les avocats. Mais c'est invraisemblable, ça.
On poursuit le débat, les grandes voix, juste après une nouvelle pause. On continue à s'interroger sur les conséquences de cette condamnation sur le plan politique pour Nicolas Sarkozy. A tout de suite.
Europe 1. Sébastien Guyot.
Le débat des grandes voix dans un instant, le deuxième thème, faut-il ou non vacciner et rendre obligatoire la vaccination pour les soignants. Mais on va poursuivre quand même avec ce dossier Sarkozy et notamment sur les conséquences politiques que ça peut avoir. Mais tout d'abord, Michel Cotta, vous n'aviez pas terminé votre démonstration.
Je voulais simplement dire que je crains que la justice exploite la perte de confiance des Français à l'égard des hommes politiques pour elle-même accentuer, au fond, cette perte de confiance. Et se sentir beaucoup de droits moraux, beaucoup de droits d'intervention sur des terrains qui ne les concernent pas en particulier. Et moi, par exemple, je voudrais reparler, on a oublié l'affaire Fillon et tout ça, mais est-ce que c'était à la justice d'enquêter sur l'emploi des attachés parlementaires ? Rien n'est moins sûr. D'ailleurs, Fillon l'avait plaidé aussi.
Pour quelle raison ?
Rien. L'Assemblée, c'est un pouvoir en elle-même. L'Assemblée s'organise comme elle veut. Que l'on sache, elle n'était pas contre ces consanguinités entre un député et un attaché parlementaire. Je me pose simplement la question, est-ce que la justice peut intervenir dans le travail parlementaire ? Or, elle le fait. Elle le fait maintenant d'une manière qui nous a... auquel on est presque habitué, vous voyez.
Quand je parlais de dévoiement d'une institution qui, au départ, les gens disaient pourquoi pas avoir un parquet financier. Il y a un parquet qui est intéressant parce qu'il est exemplaire d'une certaine manière, c'est le parquet antiterroriste. Et on a un peu dans la tête, on se dit, c'est vrai, pour les terroristes, il y a un parquet spécialisé, c'est bien. Donc, quand on a créé effectivement le parquet national financier, la réaction a été plutôt, ça va peut-être dans le bon sens pour trouver des grands escrocs internationaux, etc.
Et c'était pour des affaires complexes et difficiles. Mais bien sûr,
c'est le dévoiement d'une institution. C'est ça qui fait qu'on passe d'un état de droit à un état de non-droit. Quand on dévoie une institution, comme le fait actuellement le parquet national financier. Et je vous dis simplement le nom, parce qu'il mérite d'être mis au tableau d'honneur d'une certaine forme, je ne dirais même pas de quoi, mais tout le monde comprendra. C'est le juge, le premier vice-président du PNF qui s'appelle Patrice Amar. Oui. Et si vous voulez comprendre les exploits de Patrice Amar, je vous renvoie au Canard Enchaîné à la une de cette semaine et à bien d'autres journaux. Et vous comprendrez comment il y a un dévoiement. Quand je dis dévoiement, c'est vraiment le minimum qu'on puisse dire.
Mais c'est une justice politique qui s'exerce, au fond, le professeur de droit qui était tout à l'heure...
Bertrand Mathieu, le spécialiste de droit constitutionnel, chef Frédéric
Tadevi. Tout ça a commencé avec l'affaire Urba, c'est-à-dire avec une affaire Urba 90 sous François Mitterrand. C'est-à-dire que la justice, je ne pense pas qu'elle soit politiquement contre la droite ou politiquement contre la gauche. C'est encore plus grave, je trouve, contre l'ensemble des hommes politiques.
Oui, c'est le gouvernement et les juges.
Il faut reconnaître quand même,
Catherine
et Michel et Gérard, qu'un certain nombre d'hommes politiques se sont dévoyés aussi.
Absolument,
et ont construit des affaires financières qui ont fait que, de toute façon, il était normal que le parquet national financier ou pas intervienne.
Catherine Neveu,
c'était
pas le cas aujourd'hui. Voilà. En tous les cas, on voit bien qu'on est à un an de la présidentielle. Et on se demande ce que vont faire les juges. Par exemple, vous voyez, Darmanin, il y a eu, sur cette histoire de la relation avec une personne qui a porté plainte en disant qu'elle avait été violée ou je ne sais pas quoi. Bon, il y a eu deux non-lieux. Eh bien, la Cour de cassation a démoli ce secret, cette ordonnance, a annulé cette ordonnance de non-lieu. Pourquoi ? c'est bien parce qu'elle met une pression sur le ministre. Voyez, et donc, c'est une décision politique.
Alors Catherine, on est à un an de la présidentielle. Dites-vous, oui. Nicolas Sarkozy donc, ne sera pas candidat. Il l'a répété encore cette semaine sur TF1. Est-ce qu'à droite, on s'en réjouit ou est-ce qu'à droite, on s'en désole?
Ça dépend. Oui. Ça dépend, bien évidemment. Parce que d'abord, dans Le Figaro, au lendemain de sa condamnation, Nicolas Sarkozy a dit « Je dirai qui je soutiens et pourquoi je le fais ». Ça réserve pour certains des soirées de sueur froide. Ça, c'est évident, puisqu'il y a un certain nombre de candidats à droite, de Xavier Bertrand, passant par Valérie Pécresse. Et sans doute d'autres, pour l'instant, Retailleau, qui ont des velléités.
Retailleau, Barnier,
et aucun des candidats de droite ne peut se mettre à dos Nicolas Sarkozy, qui conserve, je le répète, un poids important sur son parti. Alors, le problème est aussi de savoir s'il, comme certains le disent et le murmurent depuis quelques 48 heures, si, bien évidemment, le programme du président de la République sortant ne va pas aussi le séduire et ne va-t-il pas l'appuyer? Il a aussi ce choix à faire, puisque jusqu'à présent, si vous voulez, les relations entre les deux hommes sont bonnes.
Vous y croyez, vous, Catherine Ney, Gérard Carreau, Michel Cotta, un Nicolas Sarkozy qui soutiendrait un Emmanuel Macron, faute de candidat crédible à droite du côté des LR?
Il reste un homme libre, Nicolas Sarkozy, mais quoi qu'on dise, il sera moins influent pour la prochaine élection présidentielle. Après ce qui vient de tomber, évidemment. Et ce qui va tomber la semaine prochaine, parce que n'oublions pas qu'à partir du 17 mars, l'affaire Big Malion commence. Je pense que d'ailleurs tout est là, tout est fait pour diminuer sa force de frappe, si j'ose dire, pour l'élection présidentielle.
C'est déjà fait.
C'est déjà fait en grande partie, et je pense que donc son rôle dans le concert de l'élection présidentielle dans 13 mois, sera moindre que ce qu'il aurait été s'il n'y avait pas eu toute cette succession.
Non, mais quand vous demandez si certains regrettent qu'il ne se présente pas, au fond, il y avait un espèce de consensus général avec l'idée qu'il ne se représenterait pas. Parce que c'est dans la vie politique, quand on a été battu, on ne revient pas. Et le temps passe, et c'est vrai qu'il garde une image très forte parce qu'il a du leadership. Et vous avez, il a un talent qui est rare en politique, c'est que lorsqu'il parle, ça vous rentre dans le cerveau, c'est important. Regardez, par exemple, sur les vaccinations, quand il dit qu'il faut vacciner 7 jours sur 7, allez vite, et ben ça tranche avec le ministre de la Santé qui dit « Ah, ben je vais écrire aux soignants pour qu'ils me répondent et tout ça. » Donc, il avait une autorité naturelle formidable, et il a été entendu. Et donc, il a cette capacité, cette autorité naturelle et tout ça, que n'ont pas les autres. Et c'est ça que certains regrettent.
Vous m'offrez, ma chère Catherine, une excellente transition pour le prochain débat sur la vaccination qui a commencé à marche forcée le week-end désormais. Mais est-ce qu'il faut aller encore plus loin? Est-ce qu'il faut rendre obligatoire la vaccination pour les soignants? On en parle dans un instant, à tout de suite.